Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Vous est-il arrivé d'avoir l'impression d'avancer dans la vie sans avoir le plan de vol, comme l'on dit, avec ce désagréable sentiment qu'il vous manque le manuel d'explication de la vie d'ici-bas? Si nous sommes nombreux à chercher secrètement cette roadmap, comme l'on dit également, peu de Français vont jusqu'à penser que la Bible est bel et bien ce GPS existentiel. Un Français sur quatre a une Bible chez soi et un quart seulement la lise régulièrement. Pourquoi un tel désamour? Que faire? Quelle proposition pour les plus férus d'entre eux? Zoom sur le thème Toulouse, enseignement biblique, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau Béatrice Papasoglou. Vous êtes enseignante à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse et directrice de ce thème, Toulouse, enseignement biblique, bonjour.
Bonjour.
Bernadette Escaffre, vous êtes bibliste, professeure de théologie à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales, et à la faculté de théologie également de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Et nous rejoindra un peu plus tard dans cette émission Jean-Pierre Guivier, qu'on aura par téléphone, qui est un des étudiants du TEB, étudiant et aujourd'hui correcteur. Cela fait de nombreuses années qu'il a choisi comme compagnonnage le Toulouse enseignement biblique. Alors avant de se plonger dans cette formation biblique qui est proposée par l'Institut catholique de Toulouse, je voulais quand même vous poser quelques questions d'introduction à vous deux et peut-être surtout à vous, Béatrice Papasoglou, en essayant de partir, on va dire, de la vie du plus grand nombre pour emmener le plus de gens peut-être aux portes de votre formation. J'ai cherché donc quelques chiffres sur que je citais en introduction sur les Français et la Bible. Alors il a fallu remonter loin, c'était un sondage Ipsos de l'Alliance biblique internationale de 2010 à l'occasion d'une exposition à Paris organisée par l'UNESCO sur la Bible. Et donc un quart des Français ont une Bible chez eux et seulement un quart la lisent régulièrement. Est-ce que ce chiffre déjà vous surprend ou pas?
Non, je le connais bien, ce chiffre. Je dirais effectivement qu'en 2010, donc, l'UNESCO avait organisé un événement qui s'appelait la Bible, patrimoine mondial de l'humanité. Et cet événement prend place, en fait, dans une ouverture du monde actuel sur le pourquoi pas de la Bible. Je dirais pour moi, il y a actuellement une possibilité pour tous de lire la Bible, ce qui n'était pas autrefois. Simplement, ce qui est par contre difficile et qu'il faut remettre en place, c'est la manière dont on considère donc la Bible. Le danger serait de la considérer uniquement comme un objet culturel.
Alors, c'est le cas de 66% des Français pour qui c'est quand même une référence culturelle. C'est déjà ça, vous me direz.
C'est déjà ça, mais ce n'est pas l'intérêt de la Bible. Elle n'est pas là pour cela, elle est là pour nous déranger, pour nous faire prendre position. Anne-Marie Pelletier disait que la Bible est un livre dangereux.
Anne-Marie Pelletier, donc, qui est une grande bibliste.
Exactement, tout à fait, professeure de littérature et grande bibliste, nous disait que la Bible est un livre dangereux et que c'est là tout son intérêt. La Bible n'est pas une mythologie, n'est pas un recueil de fables, mais elle est une rencontre avec l'humanité et avec Dieu. Donc, ce qu'il y a à voir, c'est que si l'on classe la Bible uniquement comme un objet culturel, on va perdre la potentialité d'une rencontre. Et donc, ce livre n'a aucun intérêt s'il n'est que cela.
Alors, si vous permettez, je cite un ou deux autres chiffres pour alimenter la conversation. Il y a quand même un certain nombre de Français qui ont quand même un arrière-fond justement de culture religieuse. Donc 91% connaissent quand même le récit de la naissance de Jésus. 88% celle de la mort et de la résurrection de Jésus. On peut quand même se dire que ça fait 12% des Français qui ont jamais entendu parler du récit de la mort et de la résurrection de Jésus. Ça peut être assez frappant. Et puis j'ai trouvé aussi ces chiffres. Selon les classes d'âge aussi, ça ne surprendra peut-être pas grand monde, hein, mais on va dire l'usage de la Bible ou la vision que l'on a de la Bible est assez différente. Je citais ce chiffre ce matin, chez les 25-34 ans, 60% considèrent que la Bible est un outil dépassé. Vous qui êtes toutes les deux, on va dire, des biblistes avertis, en tout cas par rapport à la moyenne des Français, comment vous expliquez ce préjugé sur la Bible, Béatrice Papasoglou, jusqu'à dire que c'est un ouvrage dépassé?
Alors, ce que je pense, c'est qu'il y a toute une histoire qu'il faudrait reprendre en compte de la lecture de la Bible. Ce n'est que récemment que la foi catholique s'est vraiment ouverte à la lecture de la Bible. Depuis donc le XXe siècle, on n'oppose plus du tout lecture biblique et science, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est dépassé, effectivement. Et là, donc, depuis qu'on ne fait plus ces oppositions, cela nous permet de ne plus donc mettre de côté la Bible et de, pourquoi pas, y trouver des réponses. Mais la Bible n'est pas un livre de recettes. Vous n'y trouverez pas les réponses, d'abord, à vos questions.
Ce n'est pas un GPS existentiel,
non,
comme je disais.
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit ça. Je ne pense pas non plus que ce soit une noix qu'il faille ouvrir avec un casse-noisette. Je ne pense pas que ça marche comme ça. Je pense que la Bible est une rencontre. Et comme toute rencontre, elle demande l'ouverture d'esprit, l'ouverture de tout l'être à une rencontre. Et que c'est à la mesure où on veut bien s'ouvrir qu'on rencontre celui qui est quand même le rédacteur de la Bible, qui est donc le Seigneur, quoi. La Bible est une écriture qui est inspirée. Ce n'est pas un livre quelconque.
Alors vous disiez au début de l'émission que il fallait donc faire un petit peu d'histoire. On peut rappeler que ne serait-ce qu'avant l'existence de l'imprimerie, la lecture de la Bible était pour le coup un très grand luxe, que pendant longtemps elle a été réservée à des clercs aussi. On en parlait en préparant l'émission, j'ai souvenir de Sainte Thérèse de Lisieux qui prenait des notes à la fin du 19e siècle de certains passages lorsqu'elle entendait les écritures. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu ça, c'est-à-dire l'accès aux écritures pour le grand public et en plus avec la possibilité de se former, c'est un luxe très récent dans l'histoire des hommes.
Alors c'est tout d'abord, il ne faut pas oublier que dans la longue histoire de l'Église, les choses ont été différentes. Là, on parle que quand même 2000 ans d'histoire. Ce qu'il y a, c'est que c'est effectivement très récemment, depuis le début du XXe siècle, que tous les catholiques au moins ont accès à une lecture possible de la Bible. Sinon, ils n'avaient que des fragments ou ce qu'ils entendaient à la messe. Ce n'est donc que récent. Mais aujourd'hui, les catholiques se donnent les moyens d'une analyse et d'un décryptage des textes. Car la Bible est une lecture exigeante.
Quand vous dites les catholiques se donnent les moyens, c'est-à-dire
Ils se forment précisément au thème, en faculté, dans leur diocèse, pour apprendre à lire la Bible. La Bible couvre 2000 ans au moins d'histoire, et même bien avant. Donc on ne lit pas la Bible d'une manière aisée. Il faut savoir l'histoire, il faut petit à petit comprendre comment elle a été écrite. Il y a une forme de connaissance à acquérir pour cela, pour rentrer dedans, oui.
Je me disais aussi qu'il y avait quelques autres préalables avant qu'on se penche plus précisément sur l'enseignement que vous proposez donc au TEB, Toulouse Enseignement Biblique. La première chose, c'est est-ce que les Écritures disent quelque chose de l'obligation de lire la Bible ? J'ai trouvé par exemple ce passage dans le livre du Deutéronome où le peuple juif est invité à une lecture publique ensemble de la loi devant tout Israël, tous les 7 ans, à l'occasion de la fête des cabanes, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a des injonctions de la part de Dieu laissant entendre qu'il y a comme une obligation morale à lire la Bible et à l'étudier ?
Alors, c'est pas du niveau d'une obligation morale, c'est du niveau d'une obligation d'amour. Si vous voulez connaître quelqu'un, il faut fréquenter ce qu'il dit, ce qu'il écrit, ce qu'il vous laisse. Donc la Bible est cela, si vous voulez le connaître. Il faut passer par là. La Bible est une des manières dont Dieu se révèle. Il y en a d'autres. En tout cas, pour les catholiques, ce qui est aussi très précieux, c'est que la Bible, en fait, est lue en Église.
Alors ça, c'est important à préciser.
Oui,
on ne découvre pas la Bible tout seul.
On a bien conscience de se situer dans une tradition, en fait, dans une longue lignée d'interprétation et d'être porté par la foi vivante de l'Église. Donc on ne lit pas la Bible tout seul, on la lit en Église, en communauté. Et c'est cela qui fait aussi la fraternité et la richesse de cette lecture catholique de la Bible.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas donc comprendre ce que Dieu a à dire aux hommes si on essaie de le trouver tout seul, c'est ça que vous êtes en train de dire ?
C'est qu'on s'enrichit les uns les autres. Donc c'est beaucoup plus fructueux de la partager, de l'étudier ensemble, tout à fait.
Alors une autre question vient, c'est peut-être une question très bateau pour vous, mais vous dites que de plus en plus de catholiques s'intéressent à l'enseignement de la Bible, mais on peut se dire qu'on est loin du compte par rapport à nos frères protestants. Je pense entre autres aux protestants évangéliques où les études bibliques sont quasiment hebdomadaires dans tout temple ou toute communauté protestante. Est-ce que les protestants pour ça sont un modèle selon vous?
Les protestants ont effectivement un avantage sur nous, peut-être, mais les catholiques aujourd'hui ne sont plus dans la perspective d'être en retard, quoi. Tout le monde sait très bien, aujourd'hui, dans la foi catholique, que la première table de l'Eucharistie, c'est la table de l'Écriture. Donc, tout à fait, il faut peut-être le redire, mais on ne va à Dieu aussi qu'en écoutant sa parole et en communiant à son corps.
Alors, le Toulouse enseignement biblique, déjà, la présentation très générale que j'en ferai, c'est que j'ai compris que donc il y avait deux grandes portes d'entrée, on va dire pour tout le monde, lire la Bible et étude des textes, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, et puis l'apprentissage de langue biblique, et après, vous m'expliquez en préparant l'émission qu'il y a différentes possibilités pour les étudiants, arrêt Bible, Bible et spiritualité, et ou Bible et liturgie, un certain nombre de certificats. Alors pour le tronc commun, que propose le TEB? Combien de temps ça dure et qu'est-ce qu'on y étudie?
Voilà, alors le TEB est l'organisme de formation à distance de la faculté de théologie en Bible, effectivement, et en langue biblique. Le tronc commun, donc, pour entrer dans les études, c'est une initiation à la lecture de la Bible. C'est une année que l'on consacre à apprendre doucement comment à faire un parcours, disons, à travers les livres bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il y a 10 dossiers et 5 devoirs à rendre par l'étudiant. Et à travers cette lecture, on apprend aussi, petit à petit, les premiers rudiments d'une lecture. Ce que l'on apprend aussi, c'est que la Bible est riche. Elle nous permet d'approcher les langues bibliques, et les langues bibliques éclairent le texte d'une manière différente. La Bible aussi nous permet de voir qu'elle a été écrite et qu'elle est aussi dans un mode de réception. Donc on va jusqu'au père de l'Église pour voir comment tel texte biblique a été reçu.
Alors si on revient juste sur la lecture des textes bibliques, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on choisit, vous choisissez 5 passages et les étudiants sont amenés à étudier ces 5 passages?
Alors,
c'est comme ça que vous y prenez?
Il y a 10 passages en fait, il y a 10 livres bibliques qui sont étudiés et il y a 5 devoirs dans cette totalité d'années. Un sur deux, donc un cours sur deux, il y a un devoir à rendre.
Donc prenez un exemple pour l'illustration.
Par exemple, vous avez un devoir sur Exode 14, donc le passage de la mer Rouge. Donc là, est-ce que c'est un texte qui est vrai? Pourquoi est-ce que Dieu est un Dieu méchant qui met les Égyptiens à l'eau? Pourquoi? Est-ce qu'il veut la mort des hommes? Donc on se pose aussi certaines questions. Le cours s'appelle justement la Bible en question, car on questionne Dieu et on se laisse questionner par lui, sur aussi notre relation à lui.
Donc Ancien et Nouveau Testament.
Oui, tout à fait.
Les deux.
Donc ça, c'est la porte d'entrée.
Alors, pour les langues bibliques, pour éviter de faire peur à tout le monde, c'est une initiation ou faut-il maîtriser certaines langues bibliques pour arriver à
Alors non,
à rentrer
dans l'étude? On commence tout à la base, hein, tout à la base. Donc, on a la possibilité d'apprendre pas à pas, donc l'hébreu biblique, donc le grec biblique, et puis l'araméen, bien sûr. Et à partir donc de l'année prochaine, à partir de la rentrée, on aura aussi une initiation au copte.
Qu'est-ce que ça change pour de connaître ou d'entrevoir ces langues anciennes?
Mais ça change qu'on lit le texte et on l'essaie de l'entendre dans la langue dans laquelle elle a été écrite. Et les mots, les expressions n'ont pas la même résonance. Donc sont plus proches du texte.
Pour ce qui est donc de ce qui sort du tronc commun, oui, pardon, Bernadette Escaf.
Juste si je pouvais rajouter quelque chose à partir de mon expérience d'enseignante de grec biblique et des langues bibliques, je vois qu'il y a des personnes qui, au départ, elles ont peur, elles disent c'est pas pour moi, je suis pas capable d'apprendre une langue biblique. Et quand elles s'y mettent, elles voient que c'est accessible. Donc c'est ça aussi qui est merveilleux, parce que donc de pouvoir étudier un texte biblique dans la langue, disons, originale, ou du moins la langue que l'on a, dans laquelle on a reçu les textes, et de voir que c'est possible même pour des personnes qui n'avaient jamais étudié. Donc voilà,
il ne faut pas se décourager. Alors, ce qui sort du tronc commun, est-ce que vous pouvez, Béatrice Papasoglou, nous présenter donc ces différentes options? Donc vous m'avez dit que ça donnait lieu à des certificats, art et Bible, Bible et spiritualité, Bible et liturgie, c'est-à-dire qu'on pioche là-dedans et on doit en valider un certain nombre. Comment ça se passe?
Alors, donc une fois qu'on a fait l'initiation, on a, suivant l'orientation que l'on a, on peut davantage s'orienter vers les langues bibliques ou vers art et Bible, et faire un parcours annuel ou semestriel qui va donner droit à des validations. Donc, puisqu'on est dans un organisme donc de faculté, on a des validations possibles qui comptent pour les étudiants qui veulent aller accomplir un diplôme. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une possibilité. Cela aussi est une reconnaissance du travail de l'étudiant et du sérieux qu'il y met. Donc, il peut valider sur, on a en tout donc 6 certificats, ce qui représente une 50aine de cours.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'illustrations? Par exemple, derrière Bible et spiritualité, qu'est-ce qu'on trouve comme type de cours?
On va trouver, par exemple, une initiation à la Lectio Divina, donc, qui va permettre d'accompagner les personnes dans une lecture journalière des textes bibliques.
Voilà, j'ai trouvé aussi, on peut trouver les chemins de la prière, oui. La prière et le corps, la prière des femmes dans la Bible, la prière de Jésus, la prière chez l'apôtre Paul, et puis on aurait pu citer aussi une entrée dans la vie spirituelle au fil des Écritures, le désert, la prière, vivre de la parole de Dieu, la quête de Dieu, le combat spirituel, la volonté de Dieu. On va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver pour illustration avec Bernadette Escaffre, donc bibliste, qui va nous donner un petit aperçu de l'un des nombreux cours qu'elle y donne. Ça sera sur les paraboles pour ceux qui par hasard nous quitteraient maintenant. Une ou deux informations pratiques que je redonnerai au fil de cette émission. Si vous voulez en savoir plus sur le thème, bien vous allez à l'Institut catholique de Toulouse, 8 place du Parlement, à la faculté de théologie, et puis vous allez toquer à la porte de cette faculté et du TEB et on vous orientera. Et cette session biblique que vous donnez prochainement, du 24 au 28 juin, intitulée « La mémoire et le temps dans la Bible ».
Emmanuel Pella.
Zoom sur le thème Toulouse enseignement biblique, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On part à la découverte de cette formation de grande qualité qui est proposée par l'Institut catholique de Toulouse et autour du plateau pour nous en parler, Béatrice Papasoglou, enseignante à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse et directrice de ce thème, Bernadette Escaffre, bibliste, professeure de théologie à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales, et à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Et à la fin de cette émission, nous rejoindra Jean-Pierre Guivier, étudiant et correcteur au Thèbes. Alors il y avait une chose quand même, deux, trois choses importantes à préciser avant de donner la parole à Bernadette Escaffre, Béatrice Papasoglou, c'est que ce qui fait le succès, donc dans chaque faculté de théologie, évidemment la Bible est enseignée, je ne sais pas s'il y a des formations à distance par contre dans chaque faculté de théologie, vous allez nous le dire, mais le succès du Thèbes tient au fait que les étudiants sont particulièrement accompagnés. Expliquez-nous ça.
Oui, donc les étudiants s'inscrivent, ils reçoivent un support de cours, soit papier, soit sur une plateforme numérique, et ensuite ils sont accompagnés personnellement par un correcteur qui va les suivre tout au long de leur année de cours. Soit ils vont prendre un cours semestriel, soit un cours annuel, mais dans chaque devoir, ils vont avoir un lien avec le correcteur qui va recevoir leur devoir, leur envoyer une correction personnalisée et les suivre pour toute réponse à leurs difficultés ou à leurs questions.
Donc c'est une forme de tutorat, on va dire,
exactement,
très
oui.
Poussé.
Tout à fait. Donc les correcteurs sont disponibles pour accompagner les étudiants. Ils sont qualifiés pour cela et donc ils peuvent les aider pour que l'étudiant ne soit pas perdu tout seul avec une question.
Alors qui vient étudier au Thèbes? Vous me disiez cette année que vous aviez 300 étudiants, laïcs, religieux. Quels sont un peu les profils des étudiants?
Alors on a à peu près donc 300 inscriptions au Thèbes cette année. Les étudiants viennent de partout, pas seulement de France, mais aussi du monde un petit peu francophone, mais aussi des étudiants, par exemple des prisonniers, peuvent aussi avoir accès à nos formations. Ils peuvent aussi être en pays étranger, comme les correcteurs peuvent être en France ou à l'étranger. On a des correcteurs, par exemple, en Hongrie ou en Grande-Bretagne.
Laïcs, religieux?
Les deux, tout à fait les deux. Vous pouvez très bien être en Amérique du Sud et être corrigé par une petite sœur carmélite de Tours, par exemple. Tout à fait.
Est-ce qu'il y a des attendus culturels nécessaires? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, être quand même assez savant et féru de la Bible? Quel est le niveau, on va dire, prérequis?
Alors, la Bible en elle-même s'adresse à tous ceux qui veulent bien l'écouter. Et le Thèbes, en fait, s'adresse à tous ceux qui veulent bien s'investir dans une étude sérieuse, certes, mais une étude possible à chacun. Donc c'est une non, il ne faut pas avoir de qualité spéciale, il faut simplement avoir besoin et envie de s'investir dans cette étude et d'y consacrer du temps.
Alors Bernadette Escaffre, Quelle bonne illustration que de parler des paraboles. Donc vous y donnez un cours au Thèbes sur les paraboles, entre autres, également en Bible et liturgie et en grec, m'avez-vous dit. Les paraboles, c'est vrai que c'est, voilà, de prime abord, je trouve que c'est un bon exemple, parce qu'on peut se dire que les paroles de Jésus sont bien énigmatiques, comme la Bible est bien difficile à comprendre, et vous allez nous aider à rentrer dans ce mystère ou en comprendre le sens. Pourquoi faut-il faire un effort comme cela, ou essayer de trouver le sens caché des choses. Vous, dans le cours que vous m'avez fait suivre, vous dites, évidemment, les paraboles font souvent grincer des dents, mais c'est d'abord à une fin pédagogique. Alors expliquez-nous ça d'abord.
Oui, alors les paraboles, quand on parle des paraboles, on pense à des histoires de la vie courante, des faits quotidiens. Et c'est vrai que c'est ça, c'est d'abord des choses de tous les jours. Jésus va prendre l'exemple d'un berger avec ses brebis, un semeur qui sème le grain, un filet de pêche, donc un pêcheur qui rentre le filet avec les poissons ou sans poissons, une lampe dans une maison, beaucoup d'exemples concrets comme ça qui facilitent de la compréhension. La parabole, c'est pas que une histoire avec des faits quotidiens. Il y a une particularité quand même de la parabole qui fait un style qui est totalement différent de, par exemple, un conte de fées,
fable. Quand vous dites qu'elle fait grincer des dents, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose d'un peu doux amer dans une parabole.
Oui, grincer des dents, c'est peut-être un peu, je sais pas si j'ai dit ça, j'ai peut-être exagéré en disant ça, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui pique un peu dans la parabole, parce que la parabole, ça semble une histoire quotidienne, une histoire qui peut se passer tous les jours. Et en même temps, quand on la lit, on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette parabole. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, entre guillemets, ou quelque chose qui frappe l'attention. On dit, mais là, il y a quelque chose qui est un peu différent de ce qui se passe dans la... qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, c'est vrai que quand on parle des paraboles, on dit que la parabole est une pointe. C'est important de voir ça, parce que c'est pas... La parabole, c'est pas une allégorie. C'est-à-dire, quand on parlerait d'une allégorie, ça serait, dans l'histoire, on cherche une équivalence de chaque élément de l'histoire, on cherche à un autre niveau. Par exemple, si on prend Jésus dit, je suis le cep de vigne, vous êtes les sarments, mon père est le vigneron. Donc ça, c'est un type allégorie, parce qu'à chaque élément de l'histoire, il y a un équivalent. Qui va donner un sens à un autre niveau. Il prend l'histoire d'une vigne, l'exemple d'une vigne, et il va montrer quelque chose de la relation entre le père, lui et les disciples. Voilà. Mais la parabole, le premier sens de la parabole, c'est pas allégorique, c'est-à-dire c'est pas une équivalence de chaque élément de la parabole. Il faut voir l'ensemble de la parabole, et c'est tout l'ensemble de la parabole qui est une comparaison. Et dans cette comparaison, il y a une pointe, c'est-à-dire un élément qui frappe l'attention, qui dit mais là il y a quelque chose qui est pas courant dans ce récit de la vie quotidienne. Il y a quelque chose qui frappe l'attention, qui correspond pas.
Alors, si vous voulez, on va y venir, mais juste avant, pour revenir à ma question de préambule, j'ai trouvé donc ce passage des Écritures, c'est dans Marc. À vous, le royaume de Dieu a été donné, mais pour ceux du dehors, tout arrive en parabole, pour que regardant, ils ne voient pas, et qu'entendant, ils ne comprennent pas. C'est souvent l'impression qu'on a avec les paraboles de Jésus dans les évangiles, c'est que quelque part, c'est comme s'il faisait exprès de ne pas être compréhensible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Pourquoi?
C'est vrai qu'on a l'impression que c'est ça, et comme s'il disait quelque chose pour qu'on ne comprenne pas, mais alors ça veut dire quoi?
Quel est le sens de cette parole citée en Marc?
C'est-à-dire que, bon, là, ça serait long à expliquer, mais à essayer de comprendre ça. Il y a quand même... ce que montre Jésus, c'est que... une des choses, c'est qu'il parle de ceux qui sont dehors. C'est-à-dire que, pour comprendre les paraboles, il faut être dedans. Dedans, ça veut dire quoi? C'est-à-dire dedans, dans le cercle de Jésus. C'est-à-dire, c'est avec Jésus qu'on peut comprendre les paraboles. Et Béatrice parlait au début que la Bible n'est pas simplement un objet culturel, mais c'est une rencontre. Et là, les paraboles aussi nous montrent ça, ou Jésus nous montre ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas comprendre les paraboles seulement d'un point de vue intellectuel. C'est pas une question de QI, c'est une question de rencontre avec Jésus. C'est-à-dire que c'est dans la mesure où on est proche de Jésus ou qu'on comprend avec lui le sens des paraboles. Et donc il dit celui qui est dehors, c'est pas parce que c'est pas une exclusion, mais c'est celui qui veut pas entrer dans le cercle.
C'est celui qui se tient dehors quelque
celui
part.
Celui qui se tient dehors, et celui qui se tient dehors, il peut pas comprendre ce qui se passe dedans. C'est-à-dire avec Jésus. Ce que Jésus veut nous dire dans une parabole.
Alors l'autre chose que vous dites, c'est que vous commencez par définir les paraboles en disant ce qu'elles ne sont pas. Alors vous n'avez peut-être pas détaillé toutes, mais vous dites que ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des énigmes, contrairement donc à ce qu'on pourrait imaginer, ce ne sont pas des dictons, des proverbes, des mythes. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu cette définition par la négative, quand vous dites ce n'est pas une énigme, ou ce n'est pas une fable ou un mythe, qu'est-ce que vous entendez par là?
C'est-à-dire que Là, quand j'ai dit que ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, c'est qu'il y a beaucoup de façons de raconter des histoires, hein, il y a beaucoup de styles différents, une énigme, un conte, une fable, etc. Et donc j'ai voulu essayer d'expliquer ce qu'est une parabole en disant ce qu'elle n'était pas, pour voir que, disons, elle a quelque chose de particulier.
Voilà. Alors qu'on dit que ce n'est pas une énigme, si on prend ça par exemple, ça veut dire quoi? Parce que c'est l'impression qu'on peut avoir, c'est...
Non, parce que c'est-à-dire, oui, il peut y avoir une dimension énigmatique dans la parabole.
Il y a un mystère, quelque chose à
oui,
trouver
voilà,
quand même.
Oui, voilà, oui, oui. Donc il y a cette dimension. Mais ce n'est pas qu'une énigme, c'est autre chose, hein, la parabole. Hein, et donc c'est bien, je pense que l'essentiel, on pourrait le dire de cette façon, la parabole, c'est une comparaison développée, c'est-à-dire on compare, on prend un exemple pour comparer, et donc la parabole, par exemple, comme si on disait telle chose est comme ceci, où vous êtes, donc il y a une comparaison, mais la parabole, elle développe ça.
Prenez un exemple peut-être tiré des Écritures, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, c'est ça?
Voilà, oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Donc là, c'est une comparaison, mais toute simple. Et la parabole, c'est une comparaison de développée, c'est-à-dire c'est toute une histoire qui est comme, par exemple, Jésus va dire, à quoi peut-on comparer le royaume des cieux? On pourrait, ça serait comme, et donc il va développer. Hein. Et par exemple, s'il dit, il va prendre l'histoire d'un berger avec ses brebis. Hein, voilà. Et donc il y a c'est cette comparaison développée. Qu'est-ce qui se passe là? Il va montrer que un berger, il a 100 brebis, par exemple, et il en perd une. Il y en a une qui s'égare. Il ne sait plus où elle est. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? La parabole nous dit, il laisse les 99 dans le désert ou dans la montagne, suivant Matthieu ou Luc, il y a deux versions. Et il va chercher celle qu'il a perdue. Et quand il revient, il est tout content, et il fait la fête parce qu'il a retrouvé la brebis qu'il avait perdue. Et donc, on se dit, bon, mais voilà, bon, c'est une histoire courante, ça arrive qu'un berger perd une brebis. Mais là, la pointe de cette parabole, c'est-à-dire, c'est là où on voit que cette comparaison dans l'ensemble, il y a quelque chose là qui frappe et qui est pas normal, si on peut dire. C'est-à-dire que ce berger, il est un peu étonnant ou un peu étourdi, pour aller chercher la brebis qu'il a perdue, il laisse les 99 autres dans le désert. Et quand il revient avec la brebis qu'il a trouvée, où elles sont les autres? On n'en parle plus. Hein, voyez, donc là, il y a quelque chose qui choque un peu. Et là, c'est une façon de montrer ce qu'est le royaume. Parce que c'est pas évident de comprendre le royaume. Et pour le comprendre, Jésus passe à travers ces histoires-là. C'est-à-dire
comparaison ou métaphore, c'est ça, hein, c'est... Oui. L'allégorie, c'est une comparaison ou une métaphore, c'est ça que vous expliquez?
Alors non, l'allégorie, c'est une métaphore développée. Tandis que la parabole, ça serait une comparaison développée. Donc on est à deux niveaux, c'est pas un niveau d'équivalence de tous les niveaux, mais c'est prendre l'ensemble et voir. Par exemple, dans cette histoire-là du berger avec ses brebis, c'est l'ensemble de la... Il faut bien comprendre d'abord l'ensemble de la parabole, et après voir qu'est-ce qu'elle nous dit du royaume. Alors là, quand le berger, il va chercher sa brebis, cette brebis qu'il va chercher, qu'est-ce qu'elle a de particulier? par rapport aux 99 autres. Elle est seulement perdue. Et vous voyez, donc elle n'est pas meilleure que les autres. Et justement, là, on a cette histoire, elle est racontée dans l'évangile de Thomas, qui n'est pas un évangile canonique, qui n'est pas dans la Bible, un évangile apocryphe. Et dans l'évangile de Thomas, cette histoire de la parabole de la brebis perdue, alors je ne sais plus exactement les détails, mais c'est quelque chose dans ce sens-là, la parabole dit, c'était la brebis, la plus belle des brebis qu'il avait, ou celle qu'il aimait le plus. Et donc il va la chercher, et quand il la retrouve, il la prend dans ses bras, il dit merci, enfin, il est tout content, il dit, tu es celle que j'aime le plus. Donc la parabole, c'est plus une parabole, c'est une histoire. Une histoire, un récit, un conte, mais la parabole, le propre de la parabole, c'est que là, la brebis perdue, elle n'a rien de particulier. C'est-à-dire, le berger va la chercher simplement parce qu'elle est perdue. C'est-à-dire, c'est une parmi les 100, et celle-là, elle est perdue.
Alors, vous laissez entendre dans votre cours que les paraboles, c'est aussi un style largement utilisé par les rabbins dans le judaïsme, et qu'en ça, Jésus est bien un juif. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots là-dessus?
Oui, donc on trouve des paraboles dans...
Ça s'appelle même les machals, c'est ça ou...
Oui, voilà, on dit le mot machal. Alors, le mot machal, peut-être en hébreu, a un sens plus grand que le propre de la parabole dans les évangiles. Il peut être tout type de comparaison ou d'histoire qu'on raconte pour expliquer quelque chose qui se situe à un autre niveau, au niveau d'une théologie, au niveau de la relation de Dieu, des hommes.
Mais donnez-nous des exemples dans le judaïsme. Quand vous dites que les rabbins utilisent souvent des paraboles, c'est-à-dire que c'était à l'époque de Jésus, enfin ça fait partie du judaïsme.
Déjà à l'époque de Jésus, oui, déjà il y en avait beaucoup. Et donc Jésus, il est comme un autre rabbin, et il raconte aussi des histoires avec la particularité de ce qu'il veut faire connaître par rapport à lui-même et sa relation avec le Père, vous voyez, et l'éruption du royaume avec sa venue qu'il veut essayer de nous faire comprendre.
Alors dernière chose justement, vous dans votre cours vous laissez entendre que la particularité quand même des histoires ou des paraboles que Jésus raconte, c'est que c'est une parole très particulière puisqu'elle vient de Jésus et que c'est comme l'irruption du royaume de Dieu dans la réalité, et c'est ce qui fait que ça n'est pas chose facile.
Oui, voilà, parce que donc le royaume de Dieu, comment le comprendre? Jésus, il prend ces images-là pour essayer de nous faire comprendre l'importance, enfin, donc, ce qu'est le royaume de Dieu. Si je reprends la parabole de la brebis perdue, on voit là que pour le berger, la brebis, elle est importante, pas parce qu'elle c'est celle qui produit le plus de laine, celle qui a le meilleur lait, celle qui est la plus grande, la plus forte, celle qu'il aime le plus. Non, c'est une brebis et elle est perdue. Et donc ça nous montre quelque chose dans le royaume, c'est-à-dire que dans le royaume de Dieu, ce qui compte, c'est pas le chiffre. Dans une société, on dirait, bon, on en a 99, on en a perdu une, on ne va pas perdre 99 pour en trouver une. Donc, on compte sur un chiffre, un numéro, c'est le chiffre qui compte, enfin, le nombre qui compte. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la personne, c'est le 1 qui compte. Et pour 1, Jésus est capable de mettre tout en jeu. Hein, vous voyez, c'est ce qu'on verra, par exemple, quand il est sur la croix, par exemple dans l'évangile de Luc, il est là pour écouter à côté de lui le bon larron qui dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume ». Et Jésus lui dit « Aujourd'hui, aujourd'hui ».
Merci Bernadette Escaffron. On va faire une deuxième pause musicale avant de retrouver notre étudiant correcteur Jean-Pierre Guivier. Si vous voulez donc vous inscrire au TEB, eh bien vous allez à Toulouse, 8 place du Parlement. Vous allez toquer à la porte de la faculté de théologie et on vous accueillera avec plaisir donc pour cette formation biblique Toulouse Enseignement Biblique.
Radio Présence dans le Comminges 94.1. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Zoom sur le TEB, Toulouse Enseignement Biblique. C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau Béatrice Papasoglou, qui est directrice de ce TEB à l'Institut catholique de Toulouse, enseignante à la faculté de théologie de ce même institut, et Bernadette Escaffre, vous êtes bibliste, professeur à la faculté de théologie. Nous avons joint donc pendant la pause musicale notre témoin du jour, habitude pour ce type d'émission d'avoir un peu un retour d'expérience, et nous sommes ce matin avec Jean-Pierre Guivier, bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre un petit peu de temps. Alors, vous n'êtes pas tout à fait du coin, puisqu'on a vu que c'était une formation à distance. On s'est dit que s'il pouvait être bon d'illustrer que cette formation pouvait irriguer loin de nous. Vous êtes à Besançon, dans le diocèse, ce diocèse du même nom. Vous êtes un enseignant de la fonction vous êtes un fonctionnaire de la fonction publique territoriale à la retraite, en retraite depuis 2015, et donc vous avez suivi de 2004 à 2010 la formation du TEB, et puis même vous êtes devenu correcteur. Alors, ma première question, tout simplement, ce serait de savoir comment vous avez entendu parler du TEB, qui n'est pas tout à fait à deux pas de chez vous.
Oui, bien, tout d'abord, merci de m'accueillir sur votre antenne. Bonjour à tous les auditeurs. Pourquoi j'ai entendu parler du TEB ? Grande et vaste question. Effectivement, comme vous l'avez dit, je suis bourguignon de naissance. Je suis arrivé à Besançon en 75, en y trouvant ma première place professionnelle. Et après avoir effectué mon service militaire, je m'y suis marié et je n'ai plus quitté la région. Donc voilà pourquoi je suis à Besançon. Comme vous l'avez dit, j'ai passé la plus grande partie de ma vie professionnelle dans la fonction publique territoriale, après quelques années dans le privé. Alors jusqu'à mon arrivée à Besançon, je n'avais entendu et lu de la Bible que des récits très morcelés, partiels le plus souvent, lors des célébrations dominicales, comme de nombreux catholiques. Et ces textes n'ont pas tardé à m'interpeller. Bien difficile à croire que tout ce qui est raconté dans ce gros livre est vraiment réel.
Alors, est-ce à dire que vous vous êtes plongé du coup dans la Bible et que c'est en voulant l'étudier que vous avez entendu parler du TEB ?
Alors, c'est en voulant l'étudier effectivement que j'ai entendu parler du TEB. J'étais donc salarié et je ne pouvais pas quitter mon travail, ni ma vie familiale. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans un premier temps au niveau de cours par correspondance, au passage à Paris, dans un premier temps pendant quelques années, et puis ce premier cheminement étant réalisé, Marc Sevin, mon correcteur d'alors, et mon évêque d'ailleurs, m'ont poussé à poursuivre cette formation biblique pour laquelle je me sentais fortement attiré. Et sur leur conseil, je me suis inscrit à la faculté de théologie de Strasbourg, toujours par correspondance, compte tenu de mes obligations professionnelles, pour obtenir un degré de théologie. Mais bon, j'ai quitté rapidement ce parcours avec l'accord de mon évêque pour différentes raisons. Et en 1998, j'ai été appelé comme membre de l'équipe de formation permanente de mon diocèse.
Mais alors, vous n'avez
pas animé plusieurs.
Si je peux me permettre, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. C'est pourquoi le TEB et quand est-ce que vous avez rencontré le TEB ?
Alors, j'y arrive. Si vous voulez, c'est un long cheminement.
Oui.
C'est un long cheminement.
Mais allez-y.
C'est un long cheminement. J'ai voulu tenter de suivre des cours par correspondance au niveau de la Bible. Et j'ai fait le tour de France, un grand tour de France, Paris, Lyon, Angers, mais qui n'ont pas pu répondre à mon attente. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Toulouse, et sur le TEB, qui m'a ouvert grand ses portes en 2004. En valorisant même mes premiers acquis bibliques. Et donc c'est comme ça que j'ai connu Toulouse Enseignement Biblique et Toulouse.
Mais alors qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette formation biblique que vous n'avez pas trouvé ailleurs aux quatre coins de la France ?
Alors qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé le fait de pouvoir suivre des cours par correspondance, au rythme que je souhaitais, sans que cela vienne entraver ma vie professionnelle et ma vie familiale. J'étais loin de Toulouse, c'est vrai, mais bon, Toulouse m'a permis de réaliser tout ce que je souhaitais à ce niveau-là.
Alors, qu'est-ce que vous avez comme souvenir marquant de cette formation ? On a un petit peu détaillé dans cette émission donc en quoi consistait cette formation biblique. Si vous revenez comme ça, deux, trois moments forts, quels seraient-ils ?
Alors, comme vous l'avez dit, j'ai suivi donc des cours au au TEB de 2004 à 2010. J'ai pu suivre au TEB un premier parcours qui s'intitulait à l'époque « Des paroles pour vivre ». Ça représente 6 années pour obtenir un certificat d'études bibliques, réparti en 2 années d'études de l'Ancien Testament, puis 2 années d'études du Nouveau Testament, soit 4 années, qui sont finalisées en plus par 2 nouvelles années avec des cours de perfectionnement en Nouveau Testament. C'est comme ça que j'ai étudié l'Évangile selon Saint-Luc, j'ai étudié les paraboles synoptiques. Bon, cela représente un petit peu de travail, 20 à 50 heures de travail par devoir, avec 6 devoirs par an, mais pour chaque parcours, mais que de découvertes et que de bonheur à...
Alors justement, qu'est-ce que vous retenez? Alors si vous deviez en retirer 2 ou 3 comme ça de votre besace, 2-3 moments forts où vous vous êtes dit que ça valait le coup de se plonger dans ce parcours biblique?
Alors 2-3 moments forts, je les ai connus plutôt après, à partir de 2011, lorsque je me suis, enfin 2011 et même 2016, lorsque je me suis replongé à nouveau dans l'étude biblique, dans une formation, parce que j'estime d'ailleurs que je ne peux pas être formateur sans être formé, sans continuer à me former, et donc c'est pour ça que je poursuis ma formation encore actuellement. Des moments forts, c'est l'étude de l'hébreu et du grec que je suis actuellement et qui m'apporte énormément, sans lesquels on ne comprend pas grand-chose dans la Bible.
Est-ce que vous auriez des exemples précis pour donner plus de chair à votre propos, de choses que vous avez découvertes justement en hébreu ou en grec, de paroles, de passages, des écritures qui prennent un sens différent quand on maîtrise ces deux langues anciennes ou c'est...
Nombreux, je ne sais pas, un exemple parmi d'autres, lorsqu'il y avait dit à Abraham, va quitte ton pays en hébreu, ça se dit Adama, et l'homme en hébreu, ça se dit Adam. Et en hébreu, il n'y a que des consonnes, et donc le pays ou l'homme en hébreu, ça s'écrit. De la même façon. Et donc, lorsque Yahvé dit à Abraham, va quitte ton pays, on pourrait traduire aussi, va quitte-toi toi-même. Va quitte le vieil homme que tu es, et va revêtir un homme nouveau, si vous voulez. Voilà un petit peu le genre de découverte que l'on peut faire.
Est-ce que vous auriez un ou deux autres exemples pour les néophytes que nous sommes, qui nous introduiraient à la richesse de la maîtrise de ce type de langue?
Un autre exemple, éventuellement en grec. En grec, se lever, se réveiller, s'éveiller, se traduisent exactement de la même façon que ressusciter. Ressusciter, se lever, s'éveiller, se réveiller, c'est tout le même mot en grec. Et donc lorsque l'on voit Jésus qui dit à quelqu'un « va, lève-toi et marche » par exemple, eh bien, on peut le comprendre comme un récit de résurrection également.
D'accord, il lui dit « ressuscite-toi d'une certaine manière ».
Voilà, on ressuscite en quelque sorte.
Alors ça, c'est l'exemple pour les langues anciennes, merci beaucoup. Est-ce que vous avez comme ça un ou deux autres moments forts de cette formation? Je ne sais pas, je vous laisse piocher dans tout ce que vous avez pu étudier ou qui pourrait aider nos auditeurs à finir de se persuader de suivre ce cycle de formation.
C'est l'exemple, il y en a énormément, mais je n'en ai pas comme ça en tête immédiatement. C'est vrai que c'est en lisant cette Bible et en lisant ces différents livres que l'on arrive à découvrir toutes ces richesses et tous ces trésors qui sont enfermés. Et c'est vrai que c'est en mâchant, c'est en digérant, c'est en relisant tous ces textes que l'on arrive éventuellement à bien comprendre un petit peu tout ce qui est derrière. Il ne faut pas lire la Bible au premier degré, si vous voulez. Il faut toujours voir un petit peu ce qu'il en est. Les récits de miracles, par exemple, il ne faut pas se demander comment cela s'est passé. Il faut plutôt se poser comme question pourquoi est-ce que l'auteur me raconte ce miracle, pourquoi est-ce que l'auteur raconte ce miracle à cet endroit-là dans ce livre, etc. etc. Voilà.
Alors,
ce genre de questions qu'il faut se poser maintenant.
Pour finir, donc, Jean-Pierre Guivier, s'il ne vous revient pas d'autres souvenirs précis, est-ce que vous diriez que ça a changé quelque chose à votre vie de foi, si vous retournez entre le croyant que vous étiez avant 2004 et le croyant que vous êtes aujourd'hui, puisque donc, pour rappel, vous avez suivi cette formation de 2004 à 2010, vous avez été correcteur à partir de 2011 et puis vous avez repris les cours depuis 2016, bref, une longue histoire. Voilà, quelle différence entre le croyant d'avant et celui d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un avant et un après?
Et je suis toujours, d'ailleurs, en formation pour l'instant. Je suis toujours étudiant et correcteur en même temps, effectivement.
Donc, s'il devait y avoir un avant et un après, quel serait-il?
Alors, effectivement, il y a un avant TEB et un après TEB. Je ne vois plus du tout les choses de la même façon au niveau biblique en particulier. C'est vrai que lorsque j'ouvre la Bible aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, ouvrir la Bible aujourd'hui, pour moi, me comble. Car je sais que l'on peut toujours y découvrir toujours quelque chose de nouveau grâce à toute cette formation que j'ai pu acquérir depuis plusieurs années. C'est très, très enrichissant. Et de plus, le suivi des étudiants que j'ai actuellement avec moi au TEB m'est également très enrichissant et me permet de mieux aborder les propres formations que je donne dans mon diocèse et m'enrichissent énormément, me permettent d'améliorer la formation que je traite actuellement dans mon diocèse.
Mais est-ce que vous diriez que vous avez quoi, du coup, une plus grande foi ou au contraire un plus grand réalisme sur ce qu'était la vie des Hébreux et sur la vie du Christ? Comment vous caractériseriez un petit peu plus précisément cette transformation, pour finir?
Bah, ça me permet effectivement d'avoir une foi plus solide, j'allais dire, une foi plus solide et puis de mieux voir les choses. La parole de Dieu effectivement est à la base, enfin, est une des bases de la foi, et cette parole de Dieu est absolument nécessaire pour avoir la foi, c'est vrai. Saint Grégoire le Grand disait, l'écriture n'est ni fermée à en être décourageante, ni accessible à en être banale. Plus on la fréquente, moins on s'en lasse. Plus on le médite, plus on l'aime. Donc, vous voyez,
preuve est faite.
J'essaie de faire.
Voilà, preuve est faite. Et puis, on imagine que cette histoire va encore durer. Merci beaucoup, Jean-Pierre Guivier, d'être venu ce matin au micro de Vivante Église pour parler de cette formation, Toulouse Enseignement Biblique. Pour finir cette émission, une information pratique. Si vous voulez retrouver l'ensemble de la formation et toutes les modalités pratiques, eh bien, site internet www.ict-catholique.fr. www.ict-catholique.fr. Merci à vous. Merci à Béatrice Papasoglou et à Bernadette Escaffre d'être venu ce matin au micro de cette émission pour nous faire découvrir l'un de ces trésors de l'Institut catholique de Toulouse. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.